Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver en ce mardi 23 mars. On est ensemble jusqu'à midi, on est en direct avec vous, 0826 300 300 également sur le Facebook de l'émission, également sur Twitter. Vous pouvez nous envoyer vos messages, nous dire ce que vous avez regardé hier soir ou ce week-end à la télévision. C'est vrai qu'hier on était en best-of entre 10h et 11h, mais nous vous donnerons toutes les audiences qu'il ne fallait pas manquer avec Rémi Pernelet. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Et Gilles Gansman est là. Bonjour. Également avec son irremplaçable zapping.
Ah, c'est gentil Valérie. C'est pour ça que je suis pour la suppression d'un jour férié, c'est pour être un jour de plus avec
oui,
vous.
Oui, bien sûr. Vous avez encore des trucs à vous faire pardonner.
Non, c'est bon.
Allez, on va parler, vous l'avez entendu tout à l'heure dans le journal, France Télévisions a obtenu les droits pour les Jeux Olympiques. C'est le Parisien qui a révélé ce scoop hier soir. On sera en ligne avec Mickaël Zoltobroda qui est journaliste média au Parisien, qui va nous raconter un petit peu les coulisses de cet accord. On aura avec nous Jérôme Anthony pour le retour de Trésor dans notre maison qui va être diffusé sur Sister. Alors ça, c'est une émission qui existait déjà sur M6.
Absolument.
Et qui revient sur Sister.
Dans une nouvelle formule.
Absolument. Et puis un documentaire sur les secrets de famille sur France 5 à ne pas manquer également. Et puis entre 11h et midi, écoutez, beaucoup de sujets dans l'actualité. Nathalie Loiseau qui donc appartenait à un syndicat d'extrême droite mais qui ne le savait pas quand elle était jeune. Travailler plus, est-ce que vous y êtes favorable? Le journaliste qui a été arrêté, Gaspard Glantz, ce week-end. De toute façon, il y aura une émission spéciale, donc on va laisser André Bercoff, Didier Maistre entre midi et 14h évoquer justement la difficulté des journalistes de tourner, de faire de l'information pendant les manifs. Bref, beaucoup de choses. On commence avec les audiences de Rémi.
Sud Radio, le 10h midi. Les médias, découvrons les audiences.
Alors Rémi, le carton?
Oui, eh bien écoutez, le carton ce week-end...
Gilles essaye de me dire un truc. J'ai quoi? J'ai une marque sur le front?
Mais oui, mais c'est...
Ah bon,
non, mais si, c'est...
Ah oui, j'ai plein d'encre, mais on s'en fout. On s'en fout. Allez, les audiences, donc le carton.
Alors le carton, donc ce week-end, effectivement, c'est pour France 2. D'abord dimanche, 4 683 000 téléspectateurs et presque 23% de part de marché pour La Grande Vadrouille, le film de 66.
C'est incroyable. Hein.
Avec De Funès et Bourville.
Chaque diffusion...
Oui, c'était la première diffusion en clair, hein, en fait.
Ah oui.
Oui, non.
Non, mais non.
Bah, d'après mes comptes, c'était au moins la 19e diffusion.
Incroyable.
Mais il est devancé. C'est pas le film qui a été le plus diffusé. Loin de là, il y a La Boum, La Traversée de Paris, qu'on en fait beaucoup plus.
Bronzés,
on est à 28. Non, pas du tout Les Bronzés. Non, non, absolument pas. Non, non. Et c'est 1 600 000 de plus que la semaine dernière.
Incroyable.
Et 1 million de plus que le film de TF1, Captain America. Voilà, très bon score aussi pour France 2. Vendredi, c'était le week-end de France 2. 4 538 000 téléspectateurs, 21,4% de part de marché pour le retour de la série Candice Renoir, 100 000 de plus que TF1. Comme l'an dernier, Candice Renoir est plus fort que Koh-Lanta pour son lancement. C'est presque 400 000 téléspectateurs en moins pour Koh-Lanta par rapport à la semaine précédente.
Ah, un score de fou, hein, quand
c'est
battu Koh-Lanta.
Ouais, Candice Renoir,
très fort.
Très fort, oui. Et puis le Gadin ?
Le Gadin, c'est pour TF1 samedi, seulement 3 672 000 téléspectateurs et 20,9% de part de marché pour The Voice, 600 000 de moins que la semaine précédente. En fait, c'est le plus bas score historique de The Voice depuis sa première saison. Il y a seulement 500 000 d'écart avec France 3, Commissaire Magellan avec Dounia Cossins.
Ouais.
Mise en bière, on en
avait
parlé avec
Dounia Cossins. C'est l'effet Sud Radio. C'est certainement
l'effet Sud Radio.
Non, mais
et puis
il
bon,
fait très beau samedi.
Alors, ouais. Oui, il fait très beau, il fait très beau pour tout le monde. Donc finalement, France 2 en troisième position, 2 026 000 téléspectateurs pour le Notre-Dame de Paris, le grand concert. C'est un assez bon score, 600 000 de plus que le prime des enfants de la télé la semaine précédente. Si
mal,
on regarde bien, finalement, TF1 perd 600 000. France 2 en gagne 600 000. C'est peut-être France 2 qui a pris les téléspectateurs à The Voice avec son grand concert.
Ouais. Gilles, une explication, le spécialiste de The Voice, pourquoi ils perdent des...
Non, mais on avait évoqué avec Rémi quelque chose qui était important, c'est qu'il y avait les coachs qui sont séparés. Toute une émission égale une émission de coach. Donc Rémy avait dit
que c'était Soprano.
C'était Soprano.
Non, mais je pense, moi, que c'est ce que je disais. Je pense que c'est peut-être le grand concert. C'était une émission musicale. C'était pour voir si vous suiviez. Et donc, ça a fait 600 000 de plus. Donc voilà, je pense que l'écart, correspond quand même pas mal.
Ouais. La surprise
La surprise, c'est pour C8 hier. 1 518 000 téléspectateurs et presque 8% de part de marché pour le film d'action américain Homefront avec Jason Statham. C8 hier était la quatrième chaîne. Devant M6, qui n'a réuni que 1 396 000 téléspectateurs, un peu plus de 7% de part de marché, avec les 30 meilleurs tubes présentés par David Ginola. Bon, c'est quand même un gadin pour M6 hier.
Gros gadin.
Ils sont juste 300 000 devant TMC, qui était la sixième chaîne hier, avec l'âge de glace 5. Donc, vous voyez, pas un bon score.
Ouais. Là aussi, première diffusion en clair.
Oui, et puis c'est vite qui a été boosté par Hanouna, qui a cartonné, parce qu'il n'y a rien en face.
Hanouna a fait 1 486 000 téléspectateurs hier, c'est vrai. Mais alors, Quotidien est en rediffusion et puis
c'est à vous aussi.
C'est à vous aussi, donc.
Ouais. Donc c'est pas très. On peut pas en tirer vraiment beaucoup d'exemples. Alors qu'avez-vous regardé à la télévision hier soir? 0826 300 300 également sur notre Facebook. Vous pouvez nous dire ce que vous avez regardé. Aimé, Marc de Rodez est en ligne. Bonjour Marc.
Bonjour. C'était Léa Salamé.
Ah, stupéfiant.
Ah, stupéfiant.
C'était, vous aimez bien cette émission?
Ah, j'adore, j'aime beaucoup Léa Salamé, et puis je trouve que c'est bien construit, c'était magnifique.
C'est original à chaque fois, c'est toujours des angles pour parler de la culture de façon très originale.
Oui, avec en particulier le musée du Qatar de Jeanne Nouvelle qui était vraiment qui est tout souple. Un musée sans œuvres en plus, parce que les œuvres doivent arriver plus tard, etc. Il y a quand même quelque chose à rapporter par rapport à ce mystère qui est assez sympa. J'ai trouvé ça passionnant.
Bon, Rémi, un petit point audience.
Bah oui, 509 000 téléspectateurs, donc c'est pas mal quand même. Surtout après une fiction, Les Petits Morts d'Agatha Christie, pardon, qui avait fait 2 340 000 téléspectateurs, donc oui, c'est
pas mal.
C'est pas mal.
Fanny est en ligne avec nous. Bonjour Fanny.
Oui, bonjour.
Alors vous avez regardé France 3, Le Monde de Jamy.
Le Monde de Jamy, exactement.
Et alors, ça vous a intéressé?
Énormément, oui, tout à fait. C'est une émission qui est très bien décrite par rapport à tout ce qu'on peut après voir en France, en Europe et plus loin.
Sur les volcans, oui, c'est ça.
Exactement, voilà, sur les volcans. Et
ça vous a fait peur un peu?
Les conséquences, peur. C'est très intéressant au niveau de tout ce qui est conséquences et pourquoi il y a ces phénomènes.
Oui. Vous êtes, et l'émission a duré assez tard. Hein,
Mais j'ai tout regardé.
Jusqu'à un peu plus de 23h, 23h10.
Et la courbe est stable.
Très stable, en fait. Ouais. 1 million, ouais. Pratiquement 2 millions, 1 985 000. Donc, c'est les gens qui sont venus. On regardait jusqu'au bout, comme vous, Fanny.
Comme Fanny. Merci, Fanny, de nous avoir appelés. Valérie nous dit sur Facebook, il a fait beau ce week-end. On en a bien profité. Pas de télé. Parfois, ça fait du bien de déconnecter.
Ah, oui, ça explique aussi samedi soir.
Ça explique peut-être samedi soir. Voilà.
Je vous dis, depuis le début.
Et Valérie nous dit, moi, je comprends. Oui, c'est ça. Oui, non, parce que quelqu'un dit, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a encore des gens qui regardent Hanouna. Bon, voilà, je vous lis tous les messages qu'on reçoit. C'est Lucie qui nous dit ça. Et on a Monique en ligne avec nous. Bonjour, Monique. Vous avez regardé?
Bonjour, moi j'ai regardé Agatha Christie, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie.
Un vendredi soir.
Mais franchement, si j'avais su qu'il y avait Jason Statham sur la 8, j'aurais regardé, parce que j'adore.
Ah oui?
Mais j'ai pas fait attention. Parce que c'est bien les Petits Meurtres d'Agatha Christie, mais c'est d'une lenteur.
Ah oui,
moi c'est genre, vous voyez, dimanche j'ai regardé un film aussi, c'était Le Passé des Terrés, j'ai jamais vu la fin, et là... je pense que ça finit, mais vous savez quoi, je sais pas comment ça finit, quoi. Ça m'agace.
Vous pouvez voir le replay pour voir aller à la fin, pour voir comment
ça
finit.
Je vous explique le replay. Souvent, quand vous faites des émissions et que vous parlez des gens qui veulent pas d'ordinateur ou qui captent pas et tout, mais vous parlez pas des gens qui n'ont pas les moyens d'en acheter. Moi, je peux pas me permettre d'acheter un ordinateur.
Non, mais le replay, vous les avez sur vos consoles. Vous regardez la télé via quelle? Vous êtes pas
un téléphone. Non, j'ai rien du tout, moi.
Vous regardez sur la TNT en erdien, en fait.
Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est un peu compliqué, mais bon, moi j'écoute, je vous écoute quand même.
Oui, c'est bien. Et puis il y a de quoi faire déjà avec les chaînes, effectivement, en hertzien. Vous avez raison, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des box, et avec les box, il y a le replay. Mais vous avez internet?
Le tarif de tout ce modernisme, là, moi, j'ai pas accès, quoi.
Mais pas d'ordinateur.
Oui, d'accord. Mais on peut avoir Internet sans ordinateur?
Oui,
c'est pas très utile.
Non, pas l'intérêt.
C'est l'abonnement, c'est tout. Voilà, il y a plein de choses comme ça que les gens ne pensent pas. Et
pour
voilà.
La télé. Pour la télé. Non, merci. Merci beaucoup, Monique. Merci de nous avoir appelés. On va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors, zapping.
Évidemment, on en reparlera sur Sud Radio à midi. Il y a un débat actuellement sur la liberté de la presse et sur les réseaux sociaux. Une parole sereine dans tout ce brouhaha, celle d'Éric Fotorino, l'ancien rédacteur en chef du Monde, qui était invité vendredi de Quotidien. Écoutez.
Pour moi, c'est la fable, vous savez, de la fontaine, du loup et du chien. C'est-à-dire que vous êtes libre. C'est le chien qui dit au loup, viens, on est libre, on peut faire ce qu'on veut, on mange bien, etc. Donc le loup le suit, puis à un moment donné, il dit, mais t'as une petite marque là au cou. Non, mais c'est rien. Non, mais qu'est-ce que c'est cette petite marque? De temps en temps, on nous met un collier. De temps en temps, on nous attache. Ben voilà, d'avoir des actionnaires puissants, c'est qu'il y a des moments, on vous attache.
Une liberté qui ne doit pas s'autoriser et autoriser à faire et à dire n'importe quoi, c'est évidemment l'image et la parole du week-end sur les médias, ce slogan juste abject. France 5, dans ses politiques, diffusait hier un document assez remarquable, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'une heure et demie, où ils ont refait en fait toute la chronologie du mouvement Gilets jaunes. Ils ont raconté toute l'histoire, c'était assez passionnant et intéressant. Et évidemment, ils ont raconté un moment pourquoi il y avait une exaspération sur certains ronds-points et pourquoi en fait la mobilisation a disparu des ronds-points.
On se retrouve à prendre la voiture pour un oui, pour un non.
Mais dans les mois qui suivent, ces milliers de consultations citoyennes ne parviennent pas à éteindre la crise.
L'objectif de ce débat, c'est d'abord et avant tout d'échanger.
Pourquoi ce grand débat divise les Gilets jaunes?
Concrètement, le président, est-ce qu'il sait qu'on s'en fout du débat national, que c'est pas ça notre priorité?
Pourquoi certaines figures du mouvement sont-elles violemment rejetées? Qui sont les extrémistes qui tentent d'infiltrer le mouvement?
Je vous conseille de le regarder, c'était vraiment très bien fait. Et puis dimanche, écoutez ce son, c'était juste avant le film de TF1. D'après vous, qu'est-ce que c'est ce son? Et ben en fait, avant le film de TF1, a été diffusé un spot de 3 minutes 30, assez incroyable.
Ah, sur le Puy du Fou.
Voilà, exactement, un spot consacré au Puy du Fou avec plus de 600 costumes, 200 comédiens. Je vous invite à aller le regarder, on peut le retrouver sur les réseaux.
En zapping, c'est pas tout à fait parlant.
Ah bah non, oui, mais non. Excusez-moi, il n'y avait pas de parole, mais ça a fait partie de l'événement télé. Excusez-moi, voilà. Monsieur. Oui, oui. Et pour finir, ma chouchou très en forme, Sandrine Saroche, vous savez, l'humoriste de Zemmour et Nolo sur Paris Première, a une nouvelle fois été très drôle et a même chanter a cappella, mais avant, elle a fait quelques jeux de mots.
Lundi soir, t'étais super émouvant, super sobre. Pas un seul jeu de mots pourri sur Notre-Dame de Paris, genre, ah, bande de cloches, vous voyez bien qu'on a le bourdon, notre patrimoine est en berne, on a Frollo la catastrophe, hé, hey, monsieur l'agent, la voiture, on la gare où? Mettez-vous là, c'est là où Hélène se gare. Non, parce que ça, c'est ça le vrai dommage collatéral de cette catastrophe, c'est qu'on voit réapparaître tous les chanteurs de la comédie musicale, hein, les chanteurs canadaires. Oui, le chanteur canadaire, tu crois qu'il va te mettre le feu, mais en vrai, il part en trombe et tu te trouves trempé de la tête aux pieds tellement tu chiales. En fait, il faudrait inventer les chanteurs canadaires, mais secs, des canadaires dry. Alors, un conseil, Emmanuel, tu fais ton allocution sur le grand débat et surtout, tu fais comme moi, tu finis par une chanson sur Notre-Dame a cappella.
Je passais l'autre jour tout près de ton parvis. Soudain, j'ai vu tes tours prises dans l'incendie. N'en croyant pas mes yeux, j'ai voulu m'approcher. Sur la maison de Dieu, ta flèche était tombée. Dans 5 ans, tu verras, tu seras de retour. Un jour, tu renaîtras, tu seras belle comme le jour. À tes pieds, il y aura des arbres tout fleuris. Et tu resplendiras. Alors.
Ça peut être du talent, ça.
Elle est très très douée. Ouais. Elle est
du talent,
douée,
elle est tapis.
Hein, vraiment, vraiment
joli,
très bien.
Et puis très beau, ouais, hein, ouais. Musicalement. Barbara, ouais, c'est réussi. L'aigle noir.
Oui. Lucie nous dit, ah oui, France 5,
c'est l'aigle noir.
Non, dis quand reviendras-tu.
Dis quand reviendras-tu.
Lucie nous dit oui, France 5, c'était top, c'est vrai, j'ai tout regardé, j'ai retenu aussi La République En Marche qui essaye de faire de la récup du mouvement des jeunes engagés pour le climat. Pedro nous dit sur le slogan suicidez-vous, il y a un syndicat de policiers qui a, en colère, qui a rappelé que ce n'était pas représentatif de tous les gilets jaunes et que beaucoup appellent la police à rejoindre le mouvement. Et puis Cynthia nous dit, moi j'ai regardé Gulli pour faire plaisir à mes trois filles. Ah. Et ben voilà, et ben bravo, vous êtes une maman parfaite. On se retrouve dans un instant avec Michael Zoltobroda pour parler de cet accord historique, un accord événement pour France Télévisions qui a raflé tous les droits de diffusion pour les Jeux Olympiques 2022, les Jeux Olympiques d'hiver, et 2024, les Jeux Olympiques de Paris. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi pour le 10h midi, 10h-11h, les médias. Et c'est un sacré événement que nous a révélé hier soir, enfin sacré accord que nous a révélé hier soir Le Parisien. Michael Zoltobroda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste média au Parisien. Bravo pour ce scoop. Vous avez hier révélé cet accord entre France Télévisions et Discovery, à savoir cet accord qui va permettre à France Télévisions de diffuser intégralement tous les Jeux Olympiques 2022, Jeux Olympiques d'hiver, et 2024, les Jeux de Paris, événement important. Donc c'est assez énorme. Grosse claque pour TF1 et pour M6. Puisque les Alors allez-y, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé.
En fait, c'est la fin d'un suspense qui dure depuis un an et demi, parce que comme vous le dites, TF1 et M6 étaient sur le coup, auraient bien aimé rafler les cérémonies d'ouverture et de clôture, et puis certains jeux collectifs comme le handball ou le basket, qui réunit quand même pas mal de monde devant la télé. Eh bien, ils n'auront rien. Voilà, France Télévisions a verrouillé tous les droits, a sorti son carnet de chèques pour diffuser de A à Z.
Mais comment c'est possible? Comment le service public peut se battre contre des groupes privés? Où est-ce qu'ils trouvent l'argent et combien? Est-ce qu'on sait le montant? Vous dites que non. Hein, dans l'article, j'encourage tout le monde à aller lire Le Parisien ce matin. Mais comment ils peuvent concurrencer des groupes privés?
Ouais, alors on a eu le contrat sous les yeux, mais à 3 mètres d'écart, donc on n'a pas pu voir vraiment le.
Vous me décevez, Michael. D'habitude, vous avez des yeux qui traînent partout.
Ouais. Oui. Bah, j'ai fait vraiment attention à ça, mais j'ai pas encore de pouvoir.
Vous n'avez pas vu le nombre de zéros.
Non, après on peut évaluer. C'est déjà plus que les Jeux Olympiques habituels. Donc ça doit situer autour de 100 millions d'euros, si sans se tromper. Et France Télévisions avait budgété en fait cette accusation probable dans ces arbitrages qui ont fait ces derniers mois sur un moyen terme. Donc pour eux, ils nous disent que voilà, c'est pas une rallonge budgétaire qu'ils vont mettre, c'est pas un bonus qu'ils vont devoir trouver au dépit d'autres droits sportifs. Bon, ça on verra un peu plus tard.
C'est beaucoup beaucoup d'argent. C'est vrai que je rappelle, enfin vous le rappelez dans l'article, que Discovery, en fait, la société américaine Discovery a racheté en 2015 les droits de 4 éditions des Jeux Olympiques pour 1,3 milliard d'euros, et qu'en fait ils les vendent un peu à la découpe, donc entre pays
sur toute l'Europe, hein.
Sur toute l'Europe, ouais. Et donc voilà, ils espéraient apparemment le prix, au moins c'est ce qu'ils avaient annoncé au début, au moins d'une coupe du monde de foot, c'est-à-dire 130 millions d'euros, donc mais on serait nettement au-dessus, d'après ce que vous indiquez là.
Bon, après, TF1, ils disent qu'ils n'ont jamais payé 130 millions d'euros. Il y a un petit secret des dieux, quand même, qui est bien gardé.
Mais ils disent qu'ils n'ont jamais payé 130 millions d'euros, mais ils ont acheté, et à mon avis, ils ont revendu. Donc après, le coût d'achat total d'une Coupe du Monde, c'est quand même à peu près 130 millions d'euros. Quoi.
C'est ça.
Il y a eu un coup de bluff ou pas, à votre avis, dans les négos? Parce que vous l'avez évoqué, ça a duré pendant un an, ce genre d'accord.
À un moment donné, France Télé
et
Delphine Ernotte disaient, si on ne peut pas les avoir, on ne les aura pas.
Pour l'anecdote, c'est que TF1 et M6 n'étaient pas au courant de ces accords avant nos papiers. Donc c'était un calendrier qui s'est un peu accéléré. Ils sont tombés d'accord, ils ont finalisé du coup cet accord mercredi dernier.
À la barbe de TF1 et M6.
Et normalement, ils devaient l'annoncer mercredi, non? C'est pas ça?
Alors, mercredi ou jeudi, il se trouve que, manque de chance, il y a cette catastrophe de Notre-Dame avec une mauvaise séquence, avec des hommages, tout ça qui ont suivi. Donc ils ont choisi, ça c'est un coup de com' aussi, hein, d'attendre un petit peu. la semaine prochaine pour qu'il y ait une nouvelle page se tourne et que là, ils puissent se réjouir. Mais effectivement, ils ont gardé, il y avait quand même une vingtaine de personnes au moment de la signature, dont deux journalistes du Parisien. Mmh. Et j'étais avec Benoît d'Aragon. Mmh. Et il fallait que le secret tienne encore une semaine. Et c'est peut-être ça aussi la poisse.
c'est que ça a tenu aussi longtemps.
Est-ce que ça va être les équipes de France Télévisions qui vont faire également la retransmission pour le monde entier? Vous savez, ce qu'on appelle le signal international. Est-ce que c'est eux qui vont tout gérer pour le monde aussi? Parce que en règle générale, ils leur vendent ça. Ils peuvent aussi regagner de l'argent de ce côté-là.
Alors c'est dans 5 ans, je ne sais pas si ça a été dealé, effectivement, c'est une bonne question, on se penchera dessus.
Il y a des enjeux d'audience énormes quand même. On sait que quand ça va se passer en France, en plus, donc les cérémonies notamment d'ouverture, c'est pour ça que être clôture, TF1 les voulait et M6 aussi. Mais donc on pense que quoi, ça peut dépasser les 20 millions de téléspectateurs. Qu'est-ce que ça va être énorme l'audience pour France TV.
C'est sûr que ça va écraser la concurrence et ce soir-là, TF1 et M6, ils vont pas peser lourd face au JO.
Oui, mais on imagine que ça va être en prime time. Et en prime time, France Télévisions n'a pas de publicité. Donc est-ce qu'ils vont être autorisés au moment des JO Olympiques, puisque comme les JO ont lieu en France, ils vont être diffusés forcément à 21h, les grandes épreuves, et à 21h, ils n'ont pas de publicité.
Bah tant mieux, c'est les téléspectateurs qui vont être amenés, non?
De rentabiliser... l'achat, en fait.
Non, mais là, en fait, c'est un choix. C'est quand même ça que c'est très fort. C'est que c'est un choix de service public et que les grandes épreuves soient... C'est un peu ce que dit Delphine Arnaud dans votre interview. C'est qu'elle se félicite du fait que le service public puisse offrir gratuitement les grandes épreuves aux Français.
Alors, gratuitement, bon, il y a les droits en clair, de toute manière. Ils étaient obligés d'être... les droits étaient obligés d'être retransmis en clair. Donc, ça aurait pu M6, TF1, France Télévisions, c'était un petit peu la même chose. Après...
Ah, mais il y avait quand même des coupures pub, impossible.
Oui, voilà. Après, c'est France Télévisions qui suit quand même les sports comme le canoë, comme la natation tout au long de l'année et avec une vraie expertise. Donc c'est ça le plus de France Télévisions.
Plus de France Télévisions. Qui va diffuser quoi exactement? On a appris également dans votre enquête, dans votre article, qu'il y aurait une chaîne sur le numérique spécialement éditée pour des communautés plus spécifiques. Mais après France 4, France O, comment ça va se passer?
France 4 et France O seront plus là à cette époque. Elles vont bientôt disparaître. En revanche, toutes les disciplines seront diffusées sur France 2 et France 3 principalement, avec cette chaîne numérique en plus. On a posé la question du côté de France 5, il n'y aura pas forcément de diffusion parce que cette chaîne n'a pas vocation à diffuser du sport. Et puis France Info aussi, ça aurait pu être une bonne option. Ça ne sera pas le cas. Ils vont traiter, bien évidemment, surtraiter les JO, mais il n'y aura pas de retransmission en direct. Je pense que déjà, ils ont un contrat en fait sur 3 chaînes. Donc, c'est France 2, France 3 et la chaîne numérique. Quoi.
Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Michael Zoltobroda, d'avoir passé ce moment avec nous sur Sud Radio. Donc, c'est à lire dans Le Parisien, double page, avec interview de Delphine Ernotte. Bah, oui, c'est bien. Vous avez...
Et là, ce qu'on a remarqué aussi ce jour-là, parce qu'on a pu assister vraiment à la signature, c'est que Delphine Arnaud était comme une enfant. C'était son cadeau de Noël qu'elle offrait à tous les téléspectateurs avec beaucoup d'émotion. C'était passionnant d'être là.
Et Laurent-Éric Lelay aussi, c'est une grosse revanche pour lui qui s'est fait virer carrément. Remercier gentiment de TF1 en 2016. Ouais. C'est un très beau coup pour Laurent-Éric Lelay également, qui est le patron des sports de France Télévisions. Merci à vous. Donc, à lire dans Le Parisien aujourd'hui avec interview de Delphine Arnaud, donc qui a sauté au plafond. Vous venez de nous le dire. Merci à vous. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jérôme Anthony pour parler d'un trésor dans votre maison. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, le trésor du jour. Bonjour Jérôme Anthony, merci
c'est beaucoup
d'être
trop
avec
d'honneur.
Nous. C'était facile.
Merci beaucoup.
Un trésor dans votre maison débarque sur Sister avec une nouvelle formule. On se rappelle, on se souvient que cette émission, le trésor dans votre maison, avait existé sur M6 pendant 4 ans, c'est ça?
Oui, 2000, facile. Oui. Oh, même plus, hein,
plus que ça.
7 ans.
7 ans, ouais. Ça marchait plutôt pas mal.
Très fort.
Et puis, les enchères, vu le succès de ce qui se passe sur France 2 avec Sophie Davant. Peut-être que Sister s'est dit qu'il y avait un créneau.
Peut-être.
Et peut-être. Et donc, vous revenez avec cette émission à partir du 3 mai. Mais il faut savoir, Rémi, petit point audience, que un trésor dans votre maison, les anciennes émissions sont diffusées sur Sister le matin et que ça cartonne.
Oui, les émissions qui étaient diffusées sur M6 sont diffusées depuis quelques temps sur Sister et ça marche très très fort et ça a donné envie à Jérôme Foucré, le patron de la chaîne, de tenter ce prime. Voilà. Oui.
Du matin jusqu'à presque midi, hein, toute la matinée. C'est, par exemple, hier, c'était jusqu'à près de 300 000, 288 000 à 11h50.
Donc moi, je fais jamais le malin avec les audiences. Mais je croise les doigts pour que ça dure. Ça marche très bien, ça donne envie de faire des choses et puis ça montre que cette émission... En fait, je vais vous dire la vérité, parce qu'on est dans une émission média, donc on va être franc.
Vous étiez les pionniers.
Cette émission, on était les pionniers. Et cette émission, elle a toujours bien marché, même sur M6. On faisait jusqu'à 2 millions de téléspectateurs.
Pourquoi elle a été arrêtée,
tous les samedis. Alors, elle a été arrêtée parce qu'elle était un petit peu faible sur la cible privilégiée, ce qu'on appelle les femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. Elle était un peu faible, mais pas si faible que ça. En fait, elle faisait quasiment les mêmes scores, enfin, c'est même un peu plus que les scores de Affaires conclues sur France 2, notamment.
Ouais.
Voilà. Mais un petit peu faible sur cette tranche, et on ne va pas se mentir, on est sur une chaîne commerciale, donc l'objectif, donc c'est de vendre de la pub. Voilà, on connaît les règles du jeu.
Ouais.
Et donc là, vous avez changé la formule, puisqu'il y a maintenant deux commissaires priseurs en compétition dans deux familles.
Tout à fait, on a changé la formule ponctuellement pour ce prime. Effectivement, c'est deux commissaires priseurs qui vont aller chacun dans une famille différente, découvrir tout un tas d'objets dont la famille souhaite se débarrasser. Ils vont en choisir un, expliquer pourquoi. Bon, déjà, ils vont raconter l'histoire de tous les objets évoqués.
Ouais.
Et ils vont en choisir un, expliquer pourquoi ils le choisissent, et en l'occurrence, pour pouvoir remporter la partie en vendant au mieux...
Et évidemment, il y a toujours des surprises dans les maisons où on ne s'attend pas à la valeur de certains objets.
Voilà, c'est l'objet insoupçonnable qui rapporte le plus. C'est souvent comme ça que ça se passe.
Alors dans les coulisses, y compris quand c'était sur M6, j'imagine il y avait un commissaire priseur qui allait voir avant la maison et faire des relevés, ou vous le découvriez en tournant, où il y avait quand même...
Alors je vais vous dire la vérité, on tournait vraiment beaucoup. Je ne sais pas tout à fait comment ça se passait en cuisine. Ce que je sais, c'est que Emmanuel Layan, notre commissaire priseur, celui qui est le plus récurrent dans l'émission, lui ne voulait pas savoir ce qui se passait.
Ah d'accord.
Ouais. Donc lui, il découvrait les objets au fur et à mesure. Je vous cache pas que comme ça, en off, il devait regarder un petit peu son téléphone pour voir ce qui se passait, hein, parce que c'est normal.
Sur les prix.
Etc. Mais il découvrait les objets sur place. Alors oui, il devait y avoir sans doute un commissaire priseur ou quelqu'un d'un peu calé pour pouvoir préparer un petit peu le tournage. Mais nous, ça, on le voyait pas. On voyait pas ce qui se passait en cuisine avant les tournages.
Ah ouais. Donc c'est vous le découvriez.
Voilà.
Après, vous dites donc que vous allez dans les maisons des Français. En même temps, vous êtes quand même obligé pour l'émission de choisir.
Déjà, il faut les prévenir.
Non, mais je veux dire qu'il y a quand même, par exemple, la maison du professeur Monnoyer à Lyon. C'est quand même une maison de plus de 200 mètres dans les familles très populaires. Dans l'autre famille, d'ailleurs, c'est un.
Comme on allait pouvoir faire. Je fais référence, par exemple, à l'émission de France 2, où là, il s'adresse directement à des professionnels. C'est-à-dire, c'est des professionnels qui achètent. C'est pas un reproche que je fais, c'est une constatation. C'est un professionnel qui achète, donc qui susceptiblement va faire encore une petite marge derrière pour pouvoir le revendre. Là, nous, on essaye de vendre à d'autres particuliers.
Via les ventes aux enchères.
Il y a des gens qui achètent par téléphone, dans la vente, manifestement. D'ailleurs, vous arrivez à des sommes assez conséquentes. Hein.
Grâce à l'Internet que vous évoquez, à ce système qui s'appelle Interenchère. Avec Interenchère, alors là, on arrive à des sommes exceptionnelles parce qu'on s'adresse au monde entier. Mmh. C'est-à-dire, le monde entier est connecté pour pouvoir acheter un objet.
Quel est l'objet le plus cher qui a été vendu dans l'émission?
Alors, je me souviens qu'on était allé faire une émission en Alsace, et là, on avait une dame qui adorait les brocantes, enfin, qui allait régulièrement acheter des petites choses. Elle nous montre un objet. Emmanuel Layan, le commissaire priseur, le regarde, lui dit: écoutez, non, écoutez, vous l'avez acheté combien? Elle dit 1000 euros. Il lui dit: écoutez, pardon, mais ça vaut même pas 100 euros, quoi. Ah, dommage. Mais il dit: par contre, vous avez un petit miroir dans l'entrée, là-bas, qui est plutôt pas mal, je peux le voir de près, etc. Elle dit: ouais, non, mais ça, c'est rien, je l'ai payé 100 balles dans un vide-grenier, etc. Et en fait, il s'agissait d'un miroir d'une artiste qui s'appelle Lynn Vautrin, qui est très renommée et qui a une bonne cote en ce moment. Et on l'a vendu plus de 50 000 euros à Drouot. Ça, c'est vraiment des cas exceptionnels. J'ai adoré cette séquence.
L'émission porte bien son nom, un trésor dans votre maison. Voilà. Pedro nous dit: j'aimais bien cette émission, la découverte de certains objets dans les foyers, mais je trouve vraiment dommage de voir toutes les familles se séparer de leur patrimoine familial. Bon, après, s'ils ont besoin d'argent...
Je vais vous dire, les premières émissions, pour moi, ça m'arrachait le cœur de voir les gens vendre vendre leurs objets, vendre leurs souvenirs.
Ouais, c'est ce que dit Pedro.
Ah ouais. Alors après, c'est passé parce que j'ai compris la démarche. Mais dès le début, moi, je suis d'accord avec Pedro, c'était dur pour moi. Mais finalement, non, les gens, ils sont déjà prêts à vendre l'objet. D'ailleurs, pour la plupart, ils l'ont. Je pense, hein. Je pense que ces objets-là, ils les avaient déjà un peu postés sur les systèmes de vente.
Oui, de vente, il y avait déjà eu cette démarche-là.
Oui, c'était déjà fait.
Oui, Rémi.
Il y a une composante intéressante pour le Prime, c'est l'aspect compétition. C'est ça que vous montez deux équipes avec deux commissaires-priseurs et chacun estime. Et en fait, l'objectif, et c'est ça qui donne un peu le dénouement du Prime, je trouve, c'est de voir au moment des ventes respectives en salle de vente, qui remporte la plus grosse enchère.
C'est le système de l'enjeu. On essaie de mettre de l'enjeu un peu dans toutes les
émissions.
Et gagne quoi,
en fait, celui qui gagne?
Il lève les bras et puis il fait «
Oui, c'est
ouais.
ça ouais. !» Il n'y a rien de supplémentaire.
Non, il n'y a pas.
Vous avez pu rajouter un petit billet, non?
Non, mais c'est leur métier. Hein, c'est leur métier d'être commissaire-priseur, donc ils ont envie d'être les meilleurs dans leur domaine. Voilà, c'est tout, ça suffit. Mais c'est vrai que ça met un petit peu d'enjeu dans cette émission. Ça donne envie de rester jusqu'à la fin, c'est l'objectif.
Bah oui, c'est l'objectif, c'est ça. Donc là, il y a une série, vous en avez tourné un certain nombre pour Sister.
Oui.
On peut imaginer qu'il y en aura d'autres et que si ça marche bien, ça pourrait être rediffusé sur M6.
Tout est possible.
Oui, à la télé,
à partir du moment où quelque chose fonctionne, tout est possible. Donc on croise les doigts pour que ça marche, qu'on en refasse d'autres. Et puis voilà, c'est encore une belle aventure.
Sur Sister, vous avez un colis, c'est retrouvé sur les après-midi à cartonner le samedi sur M6. Et c'est des parties de
oui,
de Sister.
C'est vrai.
Un colis.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Sister, il y a W9 en ce qui concerne le groupe M6. Il y a M6, Sister, W9. Voilà, tout ça, c'est un
petit. Votre prochaine émission, Série Club?
Mais pourquoi pas, ça ne me dérange pas du tout, moi.
Ouais. Donc, parce qu'en fait, vous êtes un petit peu... moi, j'ai regardé un peu toutes les émissions que vous avez faites, les 30 ans du Top 50, Drôle de réveil en 2008, Music Live en 2003, 2004, c'est pas trop tôt, et puis également certaines émissions qui ont moins marché. Vous êtes un petit peu le...
J'ai pas eu beaucoup d'émissions qui ont moins marché, mais si vous
si,
avez...
j'en ai plein.
Ah bon, vous avez quoi, vous?
Celle, vous saviez, où il y avait des surprises, qui était une sorte de reprendre l'émission de Nagui.
Ne
me cherchez pas.
C'était la seule.
Comment vous positionnez à M6 ou comment vous voyez votre carrière?
Je suis sympa.
Ouais.
C'est tout.
Ouais. C'est-à-dire
Non. Mais quand j'ai commencé à faire ce métier, je faisais de la radio en province, à Nancy. Et moi, je voyais les animateurs travailler et j'avais du respect et de l'admiration pour les animateurs que je voyais à l'époque, Drucker, Foucault, mais aussi l'arrivée de Dechavanne, etc. Ouais. Et moi, ce que j'aimais, c'est que ces animateurs, pour moi, c'était des animateurs 4x4, ils étaient capables de tout faire. Et pour moi, c'est ça un bon animateur. Alors, je prétends pas pouvoir faire, évidemment, présenter le journal, mais dans le domaine du divertissement, je pense qu'il faut savoir tout faire dans le divertissement.
C'est un éventail assez large.
C'est-à-dire, on a un ton, une manière de faire, je prétends pas que j'ai le meilleur, mais en tout cas, avec ce ton, cette manière de faire, je peux décliner dans tous les domaines, jusqu'à faire de la brocante.
Et il y a de plus en plus d'animateurs qui viennent de l'univers de la télé-réalité. Ça vous énerve pas un peu, ça, la place que prend la télé-réalité en général à la télé, et du coup même des animateurs?
Oui. Il y en a assez peu quand même de la télé-réalité qui se retrouve animateur. Vous avez quoi comme exemple?
On a le grand Moundir, l'animateur préféré de Gilles.
Non mais Moundir, il fait...
Non, c'est Jean-Anthony.
Non mais Moundir, c'est un cas à part. Voilà. Ouais, je l'adore, il est formidable, c'est super. Mais il y en a assez peu d'autres.
On vous a proposé la télé-réalité en animation?
Oui, on m'a déjà proposé des trucs. Ouais.
Et vous avez refusé?
Non, pas.
Non,
il y a de la télé-réalité que j'aime bien, il y a des trucs que j'aime bien, puis il y a des trucs que j'assume un petit peu moins, et on m'avait proposé des trucs que j'assume un petit peu moins. Ouais. Mais en fait, c'est parce que c'est pas ma culture, en fait. C'est pas ma culture. Les Marseillais, tout ça, très bien, ça me fait marrer. Franchement, ça, j'aime bien. Il y a des trucs parfois un tout petit peu plus pointus qui, je me sens pas. C'est pas ma culture, moi.
Il y a
toute une génération qui n'a été bercée que par ça. Hein. C'est-à-dire, moi, mon fils, par exemple, j'ai un fils qui a 22 ans, je sais pas si vous vous rendez compte. Il a pas connu la vie avant Internet et il a pas connu la télé avant la télé-réalité, quoi. Ouais. Donc, mais moi, c'est pas ma culture.
Quand on tape votre nom sur Google, Jérôme Anthony, donc il y a Jérôme Anthony femme. Donc, on veut savoir si vous êtes marié.
Non, je suis séparé.
D'accord.
Et je suis maqué, quoi.
Maqué, d'accord. Vous êtes en main. Il y a Jérôme Anthony taille. Oui. Jérôme Anthony père. Donc, ça, c'est pour savoir.
On parle de quelle taille, pardon? Je veux pas vous impressionner. Bien.
Non, savoir. Parce que c'est ce qui revient tout le temps. Je suis assez fasciné. À chaque fois, les gens veulent savoir. Combien mesurent leurs animateurs, leurs acteurs? Ça revient tout le temps.
Parce que la télé, ça peut être trop
grand. Je vais vous dire un truc qu'on me dit souvent. Quand on me croise dans la rue, on me dit « Vous êtes beaucoup plus grand qu'à la télé. » Bon, je mesure...
Vous mesurez combien?
1m80.
Ah bon ?
Bah oui, ah ouais, vous 1m79 exactement.
Ah ouais. Après, il y a père, parce que j'imagine qu'on doit vous demander à chaque fois si vous êtes alors, le fils de Richard Anthony.
Je ne suis pas le fils de Richard Anthony. Mais il voilà. y a des gens dans leur regard, ils ont tellement envie que je sois le ouais. fils de Richard Anthony que j'ose pas dire non.
À vouloir
alors,
du
je fais un petit oui avec la tête, comme ouais, ça, pour pas voilà. leur faire de peine. Mais ce n'était même pas son vrai nom de famille. Ouais. Et ce n'est pas mon vrai
et
nom
c'est
non
pas
plus.
Votre vrai nom non plus. Donc vous pourriez presque être son fils. Et il y a effectivement fils d'eux qui revient. Puis il y a Régime. Pourquoi vous avez fait des régimes ? Vous avez parlé de régime ?
Ah bah moi, je fais ça tout le temps. Ah j'arrête bah voilà. pas. Depuis que j'ai 15 ans, je fais gaffe à ce que je mange. Et il y a des périodes où je n'arrive pas à faire gaffe à ce que je mange. Ouais. Mais là, il y a un an, j'ai fait le fameux régime dont on entend beaucoup parler à la télévision. Ouais, vous voyez duquel on parle
ouais. Bah ça, le même que Cassel dit.
Bah on l'a fait en même temps.
Mais non.
Mais oui, on était au maquillage ensemble et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas ça ? Et on l'a fait ensemble.
Et ça a marché ?
Pour ouais. vous, oui. Non, ouais, ouais.
Si, ça a bien marché.
Si, on se fait des boîtes et tout.
J'ai perdu 10 kilos en un mois quand même.
Oh là là.
Je ne vais pas leur faire de pub, mais si, pourquoi
non.
pas
ouais. vous êtes, non, vous n'êtes pas payé par eux quand même.
Pas du
non,
tout.
Non, non, pas non, du non, tout.
Non, non, non. Concerne.
Et puis il y a chanson, et puis il y a Jérôme Anthony, chanson. Vous chantez
Bah oui.
Ah bah oui.
Alors, avant de faire de la télé, j'ai fait ça. Et là, je suis en train d'enregistrer un album de chansons de swing, en fait. C'est-à-dire, je reprends des grands tubes français. Chez Lorette, Pour le plaisir, Le ciel, le soleil et la mer. Le géant de papier, et je fais faire des réorchestrations swing à la manière de Sinatra pour être prétentieux, Sacha Distel pour être plus France Chouillard.
Eh ben on vous écoute.
Ah oui.
Allez, non, faites-moi un petit extrait.
En live, là.
A cappella, oui.
Ah d'accord, très bien, carrément. Ah ouais, c'est très bien. Alors, c'était bien, faut toujours dans le swing, c'est toujours. C'était bien chez Loretta. Quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Lorette. Je me suis pas déballonné.
Non,
c'est
vrai. D'accord. Et vous avez une super voix le matin, comme ça, pas chauffée. Non, non, bravo. Bah,
merci
bravo.
Beaucoup.
Bravo.
C'est pas l'alcool, c'est pas la cigarette.
Alors, une auditrice nous dit c'est un monsieur touche à tout et c'est top. Voilà.
Ah, c'est
alors,
très gentil, merci beaucoup.
Voilà. Bah, on
ça
est.
Fait réagir nos auditeurs.
Oui, non, tout à fait. Donc, on va vous regarder donc, sur Sister à partir du 3 mai. Donc, c'est très bientôt.
C'est
en prime. Ça va être à 21h. Un trésor dans votre maison avec une nouvelle formule, avec donc deux commissaires priseurs, des familles différentes et puis des objets. C'est toujours passionnant parce qu'ils racontent l'histoire.
Dans une période un petit peu agitée, quand on jette un petit coup d'œil dans le rétro, c'est rassurant, ça fait du bien. Ça réchauffe un peu.
Deux réactions, waouh, pas mal du tout. Donc l'album.
Bah, ils peuvent aller le télécharger.
Il y a 4 titres disponibles sur toutes les plateformes et l'album pour septembre.
Il y a Lorette qui est
disponible. Voilà, bravo.
Merci à vous, en tout cas, merci de votre accueil.
Merci beaucoup, Jérôme Anthony. Plaisir de vous avoir reçu ce matin. On se retrouve, on va rester dans les histoires de famille avec cette fois-ci Les Secrets de Famille, un documentaire assez fort qui sera diffusé ce soir sur France 5. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On sera ensemble avec vous pour commenter l'actualité à partir de 11h. On va revenir sur les violences policières, sur le journaliste également qui a été incarcéré. On parlera également de Nathalie Loiseau et de son passé. Bref, beaucoup de sujets à partir de 11h. Et puis, je vous rappelle, entre 12h et 14h, une émission spéciale avec André Bercoff autour de la liberté de la presse. Ce soir, Secret de famille, l'héritage invisible, Marie Garraud de la Barbe. Bonjour, merci Bonjour. D'être avec nous ce matin. Vous avez réalisé avec Aude Rouault ce documentaire qui va être donc diffusé à partir de 20h50 sur les secrets de famille. C'est vrai que beaucoup de familles ont des secrets. Et moi, j'ai retenu dans le commentaire, les secrets sèment des indices et les secrets de famille refont toujours surface. Et les trois cas que vous évoquez dans le documentaire de ce soir sont... assez saisissant et sidérant. Racontez-nous déjà un petit peu la genèse de ce documentaire. Comment est-ce que vous en avez eu l'idée ?
Alors nous, avec ma co-réalisatrice Aude Rouault, on a eu l'idée de ce documentaire en regardant un long métrage qui s'appelle Carrie 35, qui a été réalisé par Eric Caravaca. Ouais. Et dans ce film, en fait, l'auteur va marcher un peu sur les pas de sa sœur décédée et va essayer de déceler un peu le mystère qui entoure le décès de sa sœur. Et on s'est dit que c'était une thématique passionnante parce que voilà, on saisissait pas vraiment l'impact d'un secret sur une famille, sur comment ces gens vivaient avec des non-dits, et on s'est rendu compte que finalement les secrets de famille pouvaient faire des dégâts terrifiants au sein d'une famille.
De façon totalement inconsciente, enfin, c'est l'inconscient qui est là et qui fait sur des gens qui ont qui n'ont pas connaissance de ce secret, mais qui ont des symptômes en quelque sorte, et à un moment, bah, évidemment, la vérité surgit.
Exactement. En fait, les secrets de famille, c'est à la base des personnes, des parents qui décident de ne pas révéler un secret à leurs enfants. Et du côté des enfants, eh bien, le secret va finalement finir par s'exprimer par le bien de l'inconscient, par des tas de choses, des symptômes qu'on ne comprend pas, des crises d'angoisse, une petite voix qu'on entend, des cauchemars. Et en fait, c'est un vrai fardeau en fait, pour les enfants qui en héritent.
Oui.
Là, ce sont des secrets quand même assez lourds c'est que lourd, vous avez ouais. trouvés, enfin, puisqu'on a le cas, dans les trois cas, il y a
Jean-Pierre
qui en fait, a été adopté, mais en fait ne savait pas que son père était un lieutenant nazi, ou en tout cas de l'armée allemande. On a une femme qui découvre que sa grand-mère a été déportée à Buchenwald. Et puis, on a une fille dont les parents étaient moines et religieuses. Donc, mais comment vous avez trouvé des... Parce que les secrets, il peut y en avoir, mais enfin, là, vous êtes allés aux antipodes les uns des autres.
Oui, alors après, il faut savoir que la plupart des secrets de famille sont des secrets souvent très lourds. Hein. La plupart des secrets de famille sont liés soit à la filiation, soit au viol, à l'inceste... malheureusement. Donc, c'est vrai que ces sujets sont très lourds. Nous, on a essayé de trouver des sujets des secrets, en tout cas, les plus variés possibles. Après, on a trouvé ces histoires-là passionnantes parce qu'elles étaient différentes.
Mais comment on trouve des histoires comme ça?
Travail d'enquête, de journaliste.
D'enquête, c'est plusieurs mois. On les a trouvées. Alors, certains, c'était par exemple pour la famille suisse, c'était un petit article dans. Je crois que c'était dans Paris Match sur les enfants de prêtres. Et du coup, on s'est dit... Alors, il n'y avait pas forcément le témoignage de cette famille-là, mais on parlait d'une association d'enfants de prêtres. On se disait,
Donc, en fait, vous retrouvez des personnes qui sont déjà dans la recherche de leur secret de famille, qui sont en train quand même d'essayer de résoudre ce problème.
Alors oui, ça, c'était un peu la condition sine qua non, parce que par essence, si on était face à des gens qui avaient un secret de famille et qui ne voulaient pas du tout en parler ou qui voulaient rester... garder ce secret de façon privée, c'était compliqué pour eux de s'exprimer face à une caméra. Là, c'est vrai que ces trois personnes, ces trois histoires, ils étaient dans une démarche de recherche, de quête de vérité, et ils ont accepté qu'on les accompagne. Mais c'est vrai que c'était pas évident parce que on parle de quelque chose de très intime,
très intime,
on parle de la famille,
avec des cas là pour le coup dans les trois cas que vous évoquez, qui sont assez lourds. Moi, j'ai découvert la psychogénéalogie.
Oui.
Alors
oui.
Ça, c'est assez fascinant, c'est-à-dire que on recherche dans l'arbre généalogique finalement les raisons d'un comportement actuel.
Exactement, la psychogénéalogie, en fait, c'est une pratique clinique qui consiste, pour expliquer des traumatismes que l'on ressent aujourd'hui, qui consiste à aller creuser dans notre arbre généalogique, dans notre histoire familiale, pour comprendre un peu ce qui s'est passé et ce qui pourrait expliquer les traumatismes qu'on ressent aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce que beaucoup de psychogénéalogistes nous ont expliqué, c'est qu'il y a eu pas mal d'études, notamment en Suisse, qui ont été faites et qui ont montré que les traumatismes et les secrets de famille se transmettaient aussi par le biais de la génétique, et qu'en fait, ces traumatismes inscrivaient une espèce de petite cicatrice sur certains gènes qui pouvaient se transmettre de génération en génération, ce qui explique pourquoi des secrets de famille sont vécus de façon si terrible par les générations suivantes, en fait.
Mais d'un autre côté, on se doute que les parents qui n'ont pas voulu indiquer que leur père ou leur grand-père était nazi, c'était une façon de protéger aussi de la personne.
Alors, donc, qu'est-ce qui est pire, c'est de protéger, de ne pas dire ou de dire? S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des secrets de famille, parfois c'est compliqué, en plus, de dire la vérité quand on a caché pendant longtemps.
Franchement, au début, avec Aude, ma co-réalisatrice, on savait pas vraiment répondre à cette question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les dégâts qu'un secret de famille peut faire sur les enfants et sur les générations qui suivent, je pense que vraiment, il faut tout dire. Il faut trouver le bon moment pour dire aux enfants, mais attendre et cacher la vérité, c'est vraiment prendre le risque d'impacter négativement toutes les générations qui suivent.
Mais c'est vrai que ce cas de Jean-Pierre, là, il découvre finalement, il a l'air l'identité de son père biologique ne semble pas lui poser de problème. Pourtant, c'est vous-même dites, en fait, qu'est-ce qu'il a fait exactement, Edwin Dartch, dans le commentaire, vous le dites à la fin.
Ouais. Oui.
Qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre, et quand même, s'il a été mis dans un Lebensdorf.
Donc c'est d'ailleurs, j'ai appris
c'est vraiment un enfant de nazi.
J'avais lu, il y a un livre passionnant sur les Lebensdorf, qui sont ces espèces de pouponnières de
Lebensborn,
Lebensborn, qui ont été inventées par les nazis, et qui en avaient en France.
Tout à fait,
en fait.
Il y en avait une près de Chantilly, à la Morlaix. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que Jean-Pierre, c'était un peu la limite dans ses recherches, c'était de savoir qu'est-ce que vraiment son père biologique avait fait pendant la guerre. C'est ce qui le trouble le plus. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les informations. En fait, Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui a une vie très riche, qui a été adopté par une femme incroyable, qui était infirmière de guerre, qui a adopté quatre enfants. Donc, il a été choyé, il a été heureux pendant toute sa vie. il a entre guillemets le secret heureux, c'est-à-dire que voilà, il prend ce qu'il y a à prendre, il est très content d'avoir retrouvé de la famille en France et en Allemagne. Voilà, il se dit qu'il a vécu, que finalement c'est pas peu importe ce qu'a fait son père, parce que c'est pas ça, ça le touche profondément, mais voilà, en tout cas c'était un peu la limite. Et c'est vrai qu'on n'a pas découvert totalement ce qu'avait fait son père, donc
dans le documentaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des secrets dans toutes les familles, à votre avis?
J'allais lui demander si c'est dans sa famille, du coup, je vais vous demander de savoir s'il y a des secrets dans
votre famille. C'est un peu la question qu'on nous pose. Alors non, on n'en a pas vraiment ni l'une ni l'autre, ni Aude, ni moi, enfin en tout cas
à votre connaissance.
Voilà. Mais par contre, on a été vraiment sidérés, parce que quand on a commencé à travailler sur ce sujet, on en parlait à nos proches, au boulot, et en fait, il y en a partout des secrets de famille. Alors, il y en a des plus ou moins grands, des plus ou moins tragiques, mais il y en a partout.
Il y a beaucoup d'histoires d'enfants cachés.
Beaucoup d'enfants cachés.
D'enfants nés d'un autre lit et qui surgissent au moment du décès. Il y a des histoires comme celles-là qui sont assez nombreuses. Mais l'histoire d'Anne-Marie qui somatisait, en fait. Il y avait des cauchemars.
Elle avait des cauchemars, des crises d'angoisse.
Et l'idée d'aller chercher dans sa généalogie est assez, assez novatrice et passionnante.
Totalement.
On remonte sur les traces et elle découvre que sa mère s'est suicidée le jour où elle a appris que s'est suicidée le jour où elle a appris que son arrière-grand-mère était morte en camp d'extermination en Allemagne. C'est saisissant.
Dans le cas d'Anne-Marie, c'est une vraie malédiction familiale, parce que sa grand-mère s'est suicidée en apprenant la vérité, et puis sa propre mère a une maladie psychique.
Mais en fait, c'est pas une malédiction, on découvre qu'il y a une vraie explication grâce à votre documentaire.
Exactement. Mais c'est vrai qu'à la base, elle comprenait pas cette malédiction familiale. Et aujourd'hui, cette quête de vérité et même le fait qu'elle ait participé à ce documentaire, c'est une sorte d'exutoire finalement pour elle, parce qu'elle c'est le moment d'en parler publiquement et puis de pouvoir tourner la page.
Oui, vous l'avez revu, vous les avez revus.
On est en contact
Ils ont vu le doc ou pas encore?
Alors pas encore. Non. Ils l'attendent tous avec impatience ce soir, mais on a des nouvelles de tout le monde. Et Jean-Pierre, par exemple, il s'apprête à aller fêter les 80 ans de sa sœur en Allemagne. Donc voilà, il y a plein de bonnes nouvelles.
C'est vraiment passionnant. Secret de famille, l'héritage invisible. Je pense que ça parle à tout le monde, comme vous l'avez dit, beaucoup se posent des questions et puis on découvre ce métier de psychogénéalogiste que je ne connaissais pas pour ma part. Voilà. Merci à vous d'être venu. Donc Aude Rouault, votre co-réalisatrice, et vous, Marie Garraud de la Barre, avez réalisé ce passionnant documentaire diffusé ce soir sur France 5 à 20h50. 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Alors ce soir, Valérie, il y a une soirée totalement consacrée à un doudingue de la magie, un des plus farfelus, Éric Antoine. On va apprendre son parcours depuis Incroyable Talent, puisque W9 lui consacre une soirée entière avec un documentaire et son spectacle. On a téléphoné à Éric Antoine en personne et on lui a donné 30 secondes pour nous convaincre de se brancher sur W9 ce soir.
Salut les amis, alors pourquoi faut-il regarder W9 ce soir? Parce que d'abord il y a un spectacle, une espèce de best-of, le meilleur de ces 20 dernières années de boulot, autant dire que c'est la folie incroyable. Et puis derrière c'est un documentaire sur mon nombril, mon ego, ma personne, enfin vraiment à la gloire de moi, qu'est-ce que je me kiffe. Mais sans déconner, c'est plein de surprises. Vous allez apprendre comment ne pas vous faire escroquer aujourd'hui dans ce monde. Vous allez apprendre comment ne pas se faire avoir par tout le monde qui vous entoure, la petite direction. Tout ça, c'est la fin. Si vous venez et que vous n'aimez pas, je vous rembourse. Comme c'est la télé, c'est gratos. Allez, je vous embrasse. À bientôt.
Voilà, donc il est un peu débordé. Absolument. Donc ce soir à la télévision.
L'Alarme fatale, la série américaine qui fonctionne bien. Cache investigation sur le business des HLM. Évidemment, Capitaine Marlowe,
c'est un inédit ou pas?
C'était une rediff.
Non, c'est une rediff.
De 2016. Et puis, Secret de famille, l'héritage. Avengers, un film. Et puis voilà, il y a aussi, Nuit d'ivresse, la pièce de théâtre sur TMC.
En direct.
Qui peut bien marcher. Bon, après, c'est quand même Capitaine Marlowe, même en rediff, en général, qui remporte la mise.
Oui, désolé, Marie.
De pronostic.
Non, mais on a beaucoup de réactions d'auditeurs qui, sur Facebook, nous disent c'est très difficile quand on a un pressentiment, qu'on ne sait pas, qu'on a le sentiment de savoir. On sent que ça touche quelque chose chez beaucoup de gens et qui nous disent en général c'est à la mort de quelqu'un, d'un membre de la famille, qu'on découvre quelque chose et ça peut gâcher des vies. Donc beaucoup de réactions ce matin, donc je pense qu'il y aura beaucoup de monde ce soir. On vous le souhaite en tout cas devant France 5, et il y aura un débat derrière avec l'écrivain Philippe Grimbert qui a écrit un livre justement qui s'appelle Le Secret, et puis psychogénéalogiste. Vous allez voir, c'est passionnant. Merci à vous. On se retrouve, nous, pour le 11h midi. Commentez l'actualité. À tout de suite.